Cette actualité de près depuis l'annonce de l'alliance de ces trois pays et le retrait du bloc régional. Est-ce qu'on peut dire que la création de cette confédération est une suite logique?
Oui et non. Oui, parce que si on écoute les discours de ces dirigeants depuis qu'ils sont là, ces dirigeants putschistes donc depuis qu'ils sont là, et leurs réactions suite aux sanctions de la CEDEAO, notamment contre le Mali et aussi surtout contre le Niger, oui, c'est logique. Non, c'est pas logique parce que c'est des dirigeants qui ont pris le pouvoir par les armes et qui disent aujourd'hui qu'ils parlent au nom de leur peuple et donc qui embarquent ces États sans consultation. Au Burkina Faso, par exemple, la loi dit que pour que le pays s'engage dans une organisation, il faut un certain nombre de consultations, dont notamment le Parlement. Et j'imagine qu'au Mali, c'est la même chose. Au Niger, il n'y a même pas de Parlement. Et donc, et les raisons avancées, la lutte contre la sécurité, ça ne tient pas à certains niveaux parce que les questions de sécurité intérieure, c'est à chaque État de s'en charger. Ce qu'on oublie souvent et ce qu'on reproche à la CEDEAO, c'est qu'elle ne fait pas assez pour lutter contre l'insécurité et le terrorisme dans le Sahel. Il faut rappeler aux gens que les premières troupes au Mali sont des troupes de la CEDEAO. Ce n'est pas Serval, ce n'est pas les troupes de l'Union africaine. C'était d'abord la CEDEAO. C'est elle qui était là-bas. Bien sûr que si elle avait réussi, on n'en serait pas là. Elle n'a pas réussi, mais il y a eu quand même des initiatives. En 2019, la CEDEAO a débloqué 1 milliard de dollars pour les pays du Sahel, dont ces pays-là font partie. Donc, on peut créer l'AIS. Il y avait déjà l'autorité du Liptako-Gourma. Il fallait juste la renforcer tout en restant dans la CEDEAO. On peut rester dans la CEDEAO et avoir tout ce qu'ils disent là dans leur organisation. Ce n'est pas interdit d'avoir des organisations dans des organisations. C'est pourquoi il y a le Conseil de l'Entente, il y a la CENSAD, il y a l'Union africaine, il y a tout le monde. On peut tout créer. Mais l'idée de se retirer, les arguments avancés, c'est quand même difficile à comprendre et c'est aussi difficile à voir comment est-ce que ça pourra survivre si l'un ou l'autre de ces dirigeants vient à ne pas être là.
Nous allons chercher à comprendre ces termes. Nous avons Paul Yombo qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, Monsieur Yombo.
Bonsoir.
Vous êtes expert en relations internationales, enseignant à l'Université protestante d'Afrique centrale. Vous nous rejoignez de Yaoundé, au Cameroun. Vous expliquez sous nos antennes cette semaine ce que c'est qu'une confédération. Est-ce qu'on peut comprendre concrètement qu'est-ce que c'est et comment cela diffère-t-il de l'alliance que ces trois pays avaient déjà scellée?
Alors, une confédération, c'est une forme partie et donnée quand des États décident de déléguer certaines formes de leur souveraineté à des organisations communes qui seront donc en charge de ces compétences-là. Du point de vue historique, le champ des compétences que l'État confédéré recouvre varie énormément selon le contexte et selon l'objectif de la confédération. Dans certains cas, la confédération est un marchepied vers l'unité étatique. Il vous souvient par exemple que les États-Unis, avant de devenir un État fédéral, à l'abord était une confédération. Pendant cette année, ce n'est que suite à l'échec de l'expérience confédérale que les États-Unis sont devenus un État fédéral. Et ce qui distingue donc principalement la confédération de la fédération, c'est qu'il n'y a pas un nouveau sujet de droit international qui est créé quand on crée une confédération. La reconnaissance ou la souveraineté internationale demeure auprès des États qui constituent la Confédération.
Docteur Lassina Kabore, vous êtes au Burkina Faso, vous avez suivi cette actualité tout comme nous. La Confédération n'est qu'une étape, expliquait le chef de la diplomatie malienne cette semaine. La vision, selon lui, c'est de travailler à pouvoir arriver à une fédération des trois États. Alliance, confédération, fédération, on est un peu perdu. Comment vous, au Burkina Faso, vous avez perçu cette actualité? Comment l'avez-vous accueillie?
Oui, au Burkina Faso, on a estimé que cette actualité, en tout cas, était naturelle. À la lumière, on va dire, des derniers événements, de la progression en termes d'événements de la transition au plan international et au plan national. Et dire que finalement, depuis la création de l'AES, on a constaté que l'étape qui devait suivre, c'était vraiment, en tout cas, pousser le bouchon un peu plus loin Parce que comme le président malien l'a dit au Burkina Faso, le retour est irréversible. L'idée aussi, c'est de comprendre que derrière cette mesure, la véritable raison, la raison qui a été avancée, c'est que dans la CEDEAO, les pays de l'AES ont eu le sentiment, en tout cas, ont trouvé qu'ils n'ont pas trouvé une solution à leurs problèmes d'insécurité. Et en tous les tours également aussi, dans la CEDEAO, aurait pu créer une sorte d'incompréhension, de cohérence vis-à-vis de l'opinion publique interne. Et puis, une autre raison aussi, c'est le G5 Sahel.
Nous avons un petit souci avec la qualité de votre audio, docteur Lassian. On va tenter de vous rappeler. Bagassikoura vous expliquait à l'instant les raisons avancées par les dirigeants de ces trois États pour justifier le retrait de la CEDEAO, des raisons qui, selon vous, ne sont pas vraiment fondées. Selon certaines analyses, la création de cette confédération est une tentative de ces militaires de renforcer leur pouvoir.
Oui, et moi je dirais que ça tient comme argument. Avant qu'on en arrive là avec le Niger, l'idée qui avait été véhiculée, c'était, il y avait même eu des rencontres au niveau des ministres des Affaires étrangères, c'était Fédération Burkina Mali Guinée, une ligne de putschistes, et la Guinée s'est retirée. Et donc du coup, l'argument qu'ils avaient essayé de brandir là, il a fallu attendre quelques mois pour que ce soit le Niger où il y a un putsch, comme si avoir un coup d'État était un critère pour faire partir de ce club. Les arguments avancés, la CEDEAO est manipulée par la France. Sauf que ces trois pays restent dans l'UEMOA. Entre la CEDEAO et l'UEMOA, l'organisation qui est la plus susceptible d'être manipulée par la France, c'est bien l'UEMOA, qui est une union monétaire, une monnaie qui a été lancée par la Banque centrale de France, qui est imprimée en France, qui a toujours un œil, un regard sur cette monnaie. Et là, on n'a pas de problème à rester dans l'UEMOA. Si c'est une question d'influence, je pense que c'est par là-bas qu'on devrait, commencer. Et ensuite, si c'est pour lutter contre la sécurité, comme je le disais, le G5 Sahel avait déjà donné le droit de poursuite. Ces pays-là existaient, le G5 Sahel existait. Il y avait d'autres questions qu'on pouvait... le nom pouvait même changer. On pouvait dire... on appelle ça autrement, pas le G5 Sahel, l'autorité de l'Iptako Gourma. On lui donnait toutes les forces qu'on veut donner aujourd'hui à cette alliance du Sahel. Donc, les arguments qu'on avance, qu'est-ce qui se passe? Si vous restez dans la CEDEAO, vous ne pouvez pas vous attribuer 5 ans de mandat sans élection. C'est ce qui est arrivé au Burkina. C'est ce qui est arrivé au Mali. 5 ans de mandat et personne n'est encore là pour vous parler. Où est le calendrier électoral? Il n'y a personne qui est là pour poser cette question. Et on a l'impression que ces pays préfèrent se retirer et aller là où avec des partenaires qui n'auront pas de questions sur ces questions de démocratie comme la Russie, la Chine ou en tout cas un pays comme le Niger qui a réussi beaucoup d'aide des États-Unis, 3 avions de guerre et qui aujourd'hui rompt les relations avec Washington qui avait pourtant paru conciliant avec les putschistes parce que pendant que la CEDEAO menaçait le Niger, Washington mettait son ambassadeur dans l'avion pour aller à Niamey. Donc, mais on préfère rompre avec tous ces gens parce qu'à la fin, l'idée qui se dégage, c'est qu'on veut être dans notre coin sans être dérangé, sans question de mandat, sans autre chose. L'argument de la sécurité, tous les chiffres aujourd'hui démontrent que la situation sécuritaire dans la zone s'est aggravée. Au Niger, les attaques qu'on a vues ces derniers mois ne se passaient pas il y a un an ou 2 ans. Au Burkina Faso, la situation est encore plus grave et le gouvernement a même cessé de publier le nombre de déplacés. Il y a une raison pour cela, parce que si la situation s'améliore, quel est ce gouvernement qui ne serait pas fier de montrer ses chiffres et dire « voici d'où on est parti et vous voyez comment on a bien travaillé, voici nos derniers chiffres ». Mais ils ne le font pas parce que les chiffres ne sont pas à leur faveur.
Je rappelle que ce premier sommet de l'Alliance des États du Sahel s'est tenu juste avant un sommet de la CEDEAO et l'organisation a tendu la main à ses trois dirigeants pour leur retour au sein de l'organisation. La CEDEAO a même nommé des médiateurs, les présidents du Togo et du Sénégal. On a quelques petits soucis avec la connexion avec nos invités qui nous rejoignent via Internet. Docteur Lassina Kabore, vous êtes avec nous?
Ah oui, je suis avec vous.
Est-ce que vous pensez aujourd'hui à une chance de réconciliation entre les dirigeants du Sahel et la CEDEAO?
Oui, je pense que oui et non. Lui, dans la mesure où finalement l'Afrique de l'Ouest est un système, c'est une grande famille, c'est-à-dire que du Sahel jusqu'au golfe du Guinée, il y a des liens au plan historique, au plan économique, au plan culturel, qui sont indéniables. Mais peut-être pas dans l'immédiat, sur le long terme, je crois. Mais dans l'autre sens, en ce qui concerne le nom, c'est que quand on regarde un peu la détermination, quand on écoute un peu les discours des différents chefs d'État de ces trois pays, le Mali, le Burkina et le Niger, c'est comme si apparemment ils ont été clairs, ils estiment que le retour n'est pas envisageable. Voilà, donc c'est vraiment le constat qu'on peut faire en ce qui concerne cette situation. Et apparemment, on estime qu'après la Confédération, quand on regarde dans le préambule de la charte qui crée cette Confédération, on estime que ces pays sont désireux de parvenir à terme à la Fédération. Donc apparemment, le ciment est tracé. Mais on estime que l'Afrique de l'Ouest est une grande famille. Voilà, il n'est pas exclu que dans la ville, les positions, les lignes puissent bouger. Si le point de divergence, c'est-à-dire la sécurité, si le problème de sécurité est réglé, en principe, on peut être d'accord ou ne pas d'accord avec les arguments avancés. Mais apparemment, c'est la raison principale qui est invoquée. Peut-être que le jour où on aura avancé convenablement dans la lutte pour la sécurité, la lutte contre le terrorisme, peut-être que les lignes pourraient bouger dans un sens comme dans l'autre.
Revenons un tout petit peu sur le contexte dans lequel ces dirigeants, les trois dirigeants de l'AES ont décidé de leur retrait de la CEDEAO. Est-ce que vous estimez que ces dirigeants ont la légitimité nécessaire pour une décision aussi radicale de quitter la CEDEAO sans consulter les populations de ces pays par référendum, docteur Kaboré?
Bon, la légitimité, c'est un peu difficile d'avoir un avis tranché à la matière, mais j'estime que, en fait, cette décision peut être comprise dans le sens, on va dire simplement, d'un instinct de conservation, parce que vu de l'intérieur, vu du côté du citoyen lambda, on a le sentiment, dans la société, en tout cas, si on regarde les choses par le bas, que pendant que des Burkinabés se font tuer au fin fond de la province, la CEDEAO ne les a pas accompagnés, la CEDEAO a prendu plutôt les sanctions économiques, elle a menacé l'invasion
de
dans l'esprit d'une partie de population, on a le sentiment.
Donc, encore une fois, l'argument de la sécurité semble primer sur tout le reste. Vous avez une réaction, Magassi Koura?
Oui, mais monsieur Kaboré, à l'initiative d'Accra, à Accra, le premier ministre Tambela est parti à Accra. Ils ont promis des troupes qui devraient être basées au nord du Bénin pour intervenir au Burkina. Tambela était bien d'accord. Il a sorti un communiqué à son arrivée. Puis finalement, la junte a dit non, personne n'interviendra ici au nom de la CEDEAO. Et la CEDEAO a bien donné $1 milliard au G5 Sahel. Et donc, il y avait quand même l'initiative d'Accra, par exemple. Il y a eu près de 4 opérations militaires avec des pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, des opérations conjointes. Et tout ça a été arrêté par la junte. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui s'est passé, non?
Non, oui, bien sûr, absolument, je suis d'accord avec vous, avec l'initiative d'Accra, mais je remonte un peu, la perception de la situation vue du citoyen lambda. Le citoyen lambda, parfois, a le sentiment que notre insécurité est difficile, les gens vivent l'horreur au quotidien, pour ceux qui sont dans la zone à fort défi sécuritaire ont le sentiment qu'ils sont abandonnés. Certaines villes ont été pendant le repos sur blocus. Donc, du coup, ils ont le sentiment que depuis un certain temps, en tout cas que le MPSF est arrivé, la situation n'est pas tout à fait réglée, mais on sent qu'il y a au moins une volonté de mener la guerre. Alors qu'au niveau du MPSF, on avait le sentiment que cette volonté de mener la guerre était mitigée, n'était pas tout à fait claire. Donc, du coup, ça fait que je ne dis pas que la CEDEAO, en tout cas au plan régional, n'envisageait pas d'accompagner, mais c'est la représentation, c'est la perception qu'une partie de l'opinion au plan national a de la situation.
Et vous parlez de la perspective des Burkinabés. Que pensent nos téléspectateurs de la création de cette confédération et du bras de fer entre l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO? Je vous propose quelques réactions recueillies sur les plateformes digitales de VOA Afrique. Issa Abdoulaye Yassileti de N'Djamena au Tchad nous dit que l'AES a déjà tourné la page de la CEDEAO. Les dirigeants ouest-africains doivent se concentrer, selon lui, sur la démocratie qu'ils prétendent défendre et laisser les partants en paix. Charles Bazeman de Ouagadougou au Burkina Faso nous dit que les trois pays du Sahel ont décidé de prendre leur destin en main, d'abord sur les plans sécuritaires et économiques. Vraiment, j'aurais aimé voir l'AES au sein de la CEDEAO, nous dit-il, comme un anti-système regroupant ces trois pays. Nous avons, nous, Dendi Aligos au Nigeria, qui nous dit que cette décision n'est pas seulement de l'AES, mais une décision de toutes les âmes et prix. Et prise de dignité, de paix et de souveraineté, cette confédération, selon lui, est la gestation de la véritable indépendance dont l'Afrique a besoin. Voilà qui nous conduit à la seconde partie de cette édition, Washington Forum, en direct de VOA Afrique. Restez avec nous.
Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et Nous,
c'est vous,
c'est nous,
c'est vous,
vous et nous.
Washington Forum sur VOA Afrique, bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous parlons du récent sommet de l'Alliance des États du Sahel. Ils ont acté lors de cette rencontre la création d'une confédération et maintiennent leur retrait de la CEDEAO. Quel potentiel impact pour la stabilité économique de la sous-région? C'est ce que nous allons voir maintenant avec mes invités, Bagassi Koura, chef du service Bambara de la VOA. Nous avons au téléphone depuis Ouagadougou, au Burkina Faso, Dr Lassina Kabore, enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo, et la technique me le confirmera, Paul Yombo, expert en relations internationales, enseignant à l'université protestante d'Afrique centrale à Yaoundé, du côté du Cameroun. Bagassi, alors que nous préparions cette émission sur le bras de fer entre les pays de l'AES et la CEDEAO, le président du Burkina Faso a tenu un discours ce matin même où il accusait la Côte d'Ivoire et le Bénin de vouloir déstabiliser le Burkina Faso. Ce dernier développement ne complique-t-il pas la tâche aux facilitateurs de convaincre les États de l'AES de revenir au sein du bloc régional?
Oui. Avant d'en arriver là, il y a un commentaire que j'ai vraiment aimé d'un des auditeurs qui dit pourquoi ces trois pays de l'AES ne restent pas au sein de la CEDEAO pour être anti-système, jouer un contrepoids et imposer leur vue, arriver à réorienter l'organisation dans la direction que ces pays-là veulent, de sorte que ça bénéficie plus leurs intérêts, que ça bénéficie aux populations de ces régions-là. Maintenant, pour revenir, oui, effectivement, il y a eu cette déclaration aujourd'hui du président Traoré, du capitaine Traoré. C'est pas nouveau, ces accusations, mais pour la première fois, il cite nommément le Bénin, mais aussi la Côte d'Ivoire, où il y aurait des bases, où on entraîne des terroristes contre le Burkina. C'est des choses qu'on entend, mais uniquement dans des déclarations. Jusqu'à présent, ça fait 10 ans que cette région est dans cette lutte contre le terrorisme. Il n'y a pas ce type d'argument, d'accusation qu'on n'a pas entendu. Et jusqu'à présent, personne n'a montré une seule preuve. Vous vous rappelez que le Mali aussi avait dit qu'il avait des preuves. Ça fait plus de 2 ans que le Mali, même récemment, Abdoulaye Diop était à Bruxelles. Il n'a pas parlé de ses preuves dont il... des preuves qu'il détient. Donc il accuse la Côte d'Ivoire, qui est quand même un pays clé pour le Burkina. Les deux pays sont liés. La Côte d'Ivoire dépend énormément du Burkina. Le Burkina dépend énormément de la Côte d'Ivoire. Et donc on imaginerait que ces dirigeants allaient peut-être avoir des relations beaucoup plus resserrées pour discuter. Pas qu'il n'y a pas de problème, c'est parce qu'il y a des problèmes justement qu'il faut un rapprochement pour discuter de ces questions. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui a envoyé son ministre au Burkina et pas le contraire. Le président du Ghana a envoyé une délégation au Burkina. Talon a envoyé une délégation au Burkina, le président du Togo. Mais Ibrahim Traoré n'a allé qu'au Mali et au Niger. Donc on attend toujours de voir comment est-ce qu'il compte engager ses voisins. S'il a des préoccupations, ce serait bien. Mais cette déclaration, jusqu'à présent, on n'a pas encore vu un camp où on entraîne des terroristes. Si un pays entraîne des terroristes, comme il le dit, ben, les ambassades sont à Ouaga. Je n'ai pas encore entendu que le Burkina a rompu des relations diplomatiques avec ces soi-disant pays qui entraînent des terroristes, qui les détruisent.
Et pour revenir sur le bras de fer avec la CEDEAO, l'organisation a mis en garde contre l'isolement politique et diplomatique des pays de l'AES et la perte de millions d'euros d'investissement. Docteur Kabouret, est-ce que du côté du Burkina Faso, l'on craint les répercussions de cette décision de sortir de la CEDEAO?
Oui, à ce qui concerne cette sortie de la CEDEAO, effectivement, les populations, en tout cas les gens prennent acte, en tout cas on sait effectivement que notre retrait de la CEDEAO va occasionner un certain nombre de difficultés. Par exemple, en ce qui concerne les visas, et le Burkina Faso fait partie de l'un des pays de l'AES, qui a eu une grande diaspora du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà, on parle de 4 millions de Burkinabés environ qui vivent dans ce pays. Et d'un point de vue historique, ces deux pays, pendant longtemps, ont constitué une seule même entité. Donc, du coup, ça fait que ces deux pays sont liés. Mais en ce qui concerne, on va dire, les dernières évolutions de la situation, en tout cas des dernières sorties de la CEDEAO, on comprend, parce que la CEDEAO est dans son rôle. La CEDEAO s'appuie sur des textes, elle s'appuie sur des principes. Et par exemple, même quand on doit quitter cette organisation, voilà, il y a les conditions. Voilà, il faut, on dit que les États sont libres de partir, mais c'est encadré. Donc, peut-être qu'à ce niveau-là, le Burkina et le pays de l'AES devraient mettre des formes pour que les choses se passent bien.
Donc, vous pensez que l'AES pourrait mettre en place ses propres mécanismes pour faciliter, par exemple, la circulation des biens et des personnes?
Oui, c'est ce qui est annoncé dans la charte, Maintenant, comme la Confédération vient de se mettre en place, bon, il faudra peut-être voir les choses sur le moyen ou le long terme, mais au moins, il faut leur accorder le bénéfice de la bonne foi, parce que, bon, l'AES, c'est un niveau, pas tout à fait nouveau, mais c'est une nouvelle direction que ces pays ont décidé de prendre. Parce que quand vous écoutez les discours des différents responsables, ou les premiers responsables de ces pays, la notion de souveraineté revient régulièrement. Au Burkina Faso, on parle de développement endogène. Donc, on estime que bon, c'est une voie qu'il faut tenter, le coup. En principe, si on compte sur nos propres forces, peut-être que le bonheur, peut-être que la lutte contre l'insécurité devrait en tout cas connaître un dénouement beaucoup plus heureux. Voilà, donc c'est vraiment le petit commentaire rapide que je peux faire de la situation.
Pour reprendre vos expressions. Allez-y.
Allô, oui.
Oui, allez-y.
Oui, sinon, il y a une différence entre l'AES et la CEDEAO. Mais je crois que, de mon point de vue, c'est l'Afrique de l'Ouest est un grand village, c'est une même entité. En principe, les autorités de Pajot devraient, en tout cas, savoir raison garder et apaiser les tensions. Parce que, de mon point de vue, c'est l'Afrique de l'Ouest qui gagne. C'est le même système, ce sont les mêmes peuples. Voilà, donc
apaiser les tensions et accorder le bénéfice du doute aux dirigeants de l'AES. Je vous laisse conclure.
Non, il a totalement raison. Il faut apaiser les tensions et peut-être même passer à la prochaine phase, c'est-à-dire se mettre au sérieux pour négocier. Parce que j'ai vu des gens dire que oui, il y a l'UEMOA. Non, les règles de l'UEMOA ne permettent pas d'avoir tous les bénéfices qu'a accordé la CEDEAO. Par exemple, les Burkinabés devraient payer la carte de séjour en Côte d'Ivoire parce que l'exemption est accordée aux résidents de la CEDEAO, pas de l'UEMOA.
Donc le dialogue devrait rester ouvert. Merci pour votre mot de fin, Bagassi Koura. Et merci à tous nos invités pour ce débat. Professeur Paul Yombo qui n'a pas réussi à nous joindre. C'est la fin de ce Washington Forum. Rendez-vous tous les jeudis à 19h30, temps universel sur VOA Afrique. Bonsoir chez vous.